6h45, vous écoutez France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, les candidats aux primaires démocrates américaines.
Et oui, puisque vous le savez, c'est officiel depuis mardi. Bernie Sanders est de nouveau candidat à la présidentielle américaine en 2020. D'après un rapide décompte, elle serait désormais 12 personnalités démocrates officiellement candidates à l'investiture donc en 2020 et contre Donald Trump pour l'élection présidentielle. Bonjour Anne Desin. Merci d'être au téléphone. Vous êtes américaniste, bien sûr, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Votre dernier livre, c'est La Cour suprême des États-Unis. Alors, pour Bernie Sanders, dans son petit clip de campagne cette semaine, le sénateur indépendant du Vermont se présente comme le candidat de l'Union, du climat, de la régulation des armes à feu et de l'attention aux plus vulnérables, dit-il. Première remarque sur ce clip, ce sont 4 points résolument dirigés contre Donald Trump, on pourrait dire.
Oui, et le tweet dans lequel il a répondu à Donald Trump, qui a salué son annonce par Crazy Bernie, donc Bernie le fou, c'est de dire, ben oui, moi je veux gagner contre ce président qui est raciste, qui est sexiste, etc. Donc au moins, il ne mâche pas ses mots. Et il reprend à la fois les points sur lesquels il a fait campagne il y a, on va dire 4 ans pour simplifier, mais il ajoute le climat qui n'était pas au centre de son action et la régulation des armes à feu.
Oui, c'est ça, et avec une virulence, comme vous l'avez dit, il a appelé Donald Trump raciste. C'est pas le seul candidat démocrate d'ailleurs à l'avoir appelé raciste. C'est assez nouveau dans le débat, ça aussi, cette virulence du côté des candidats.
Oui, ils ne mâchent pas leurs mots, et en particulier une des 5 femmes, Kamala Harris, qui d'ailleurs est celle qui, avec Bernie Sanders, a collecté le plus de fonds et qui est le plus haut dans les sondages. Mais il faut bien se rendre compte que 56% des démocrates, des électeurs démocrates, n'ont pas encore d'idée sur qui ils vont voter et qu'aucun de ces candidats, alors ceux qui sont déclarés et puis tous les autres, et donc on parle de 20, 25, peut-être même 30 candidats potentiels, n'atteint la barre des 20%. Donc nous avons un champ extrêmement mouvant.
Oui, effectivement, et un jeu donc beaucoup plus ouvert. C'est vrai qu'il y avait ce classement fait par le magazine Rolling Stone qui listait 26 personnes potentiellement candidates, 14 non encore déclarées. Mais c'est peut-être la donnée essentielle par rapport à 2016 pour les démocrates et pour Bernie Sanders, cette ouverture. Quel rôle il va pouvoir jouer alors dans ces primaires?
Oui, alors la première caractéristique, c'est l'ouverture. La seconde, c'est que nous sommes beaucoup plus à gauche. C'est-à-dire que ce que Bernie Sanders défendait lors de la campagne précédente, c'est devenu un acquis pour la majorité des candidats. Il demande un SMIC à $15. Beaucoup de candidats disent oui. Il demande alors Medicare pour tous. Et ça va être un grand problème parce que parmi les candidates, il y a ceux qui sont très à gauche, comme lui-même, Kamala Harris, etc., et d'autres qui se posent comme étant plus centristes, plus réalistes, et eux ont compris que Medicare pour tous, ça va être un épouvantail pour les électeurs indépendants, qu'il faut absolument gagner si l'on veut remporter l'élection générale, et donc, je pense à deux en particulier, celle qui est un peu ma chouchoute, qui est Amy Klobuchar, mais aussi l'un qui ne s'est pas encore déclaré, qui est un des milliers de sénateurs, si j'ose dire, qui se présente, Sherrod Brown. Les deux, d'ailleurs, ont pour caractéristique de venir du Midwest, c'est-à-dire ces États qui vont être centraux à la fois pour les primaires et pour l'élection centrale, Sherrod Brown. Et Sherrod Brown, ce week-end, disait « ça me paraît difficile de faire Medicare pour tous. Je propose que l'on ouvre, c'est ouvert à ceux qui ont plus de 65 ans, que l'on ouvre à ceux qui ont plus de 55 ans. Donc là, on voit bien que c'est là-dessus que ça va se jouer. C'est là-dessus que l'écrémage va se faire. Au fur et à mesure qu'il y aura des débats, des réunions, certains électeurs vont être exclus du jeu de deux façons, par les sondages et par le fait qu'ils ne collecteront pas encore d'argent. Bernie Sanders, donc, qui a collecté 6 millions de dollars, et c'est intéressant parce que c'est celui qui part avec des atouts absolument fabuleux. Il a justement cette mailing list de tous ceux qui ont voté pour lui et qui ont donné de l'argent et donné des petites contributions. Cette fois-ci encore, la moyenne, c'est $27. Et donc, ça, c'est bien parce que ça permet de pousser l'idée qu'il faut réformer le financement des élections, réformer la possibilité pour les entreprises et des milliardaires de verser des millions de dollars et se polariser là-dessus.
Oui. Alors justement, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Si je prends juste ce dernier point, cette capacité effectivement, qui était aussi une marque de Bernie Sanders, à mobiliser les petits électeurs et les dons. Je crois qu'il y a un candidat qui s'est retiré au Jeddah qui disait lui justement, moi je ne veux pas, disons, gaspiller l'argent des petits électeurs. Est-ce que ça veut dire que Bernie Sanders aujourd'hui va être noyé au sein des primaires et de ce grand mouvement à gauche, comme vous l'avez dit, ou alors qui peut donner une véritable impulsion et une impulsion sur la manière de faire campagne et de récolter des fonds?
Je crois qu'en début de campagne, Bernie Sanders va jouer un rôle très important parce qu'il a fait quelque chose de très important en 2016, mais il y avait hier dans le Washington Post un article qui reprend un peu ce que je ressens moi, c'est que son moment est passé. Donc en fait, je pense que c'est lui qui va adouber un des jeunes parce qu'il a 77 ans. On a des candidats qui ont cette fois entre 37 ans et 77 ans. Est-ce que les démocrates vont vouloir mettre à la tête de leur liste un autre aïeul quand déjà nous avons eu Trump qui n'est pas tout jeune? Je pense qu'il va être celui qui va faire le roi ou la reine. Il y a quand même 5 femmes qui sont candidates, mais de nouveau, on sent le sexisme. Un des mots qui avait marqué les deux campagnes de Clinton, likability, est-ce qu'elle était assez aimable pour être élu. Alors, le mot n'a pas trop réapparu, mais il a réapparu de façon indirecte dans l'opposition entre deux des candidats noirs, Kamala Harris et l'autre sénateur, Cory Booker. Et certains noirs, semble-t-il, d'après les sondages, diraient conditionnels que ben, s'ils ont vraiment le choix entre deux Africains-Américains, ben, ils choisiraient un homme, parce que quand même, c'est plus sûr. Donc, il y a 5 candidates, c'est très bien, mais nous n'avons pas nécessairement une femme présidente à la fin du jeu.
Donc pas forcément cette Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota dont vous parliez. Cette likability, il n'y a pas d'alternative en politique à être aimé, c'est ce que disait le Washington Post en 2007. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, que vous parliez des différentes lignes de fracture, du gauchissement, que le programme n'aura pas tellement d'importance et que cette question, par exemple, du Medicare, au-delà d'être un épouvantail, sera pas vraiment une question de programme?
Alors si, parce que comme Trump tweet, il va pouvoir s'acharner sur les candidats les plus fragiles. Je pense à Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, c'est une femme très compétente, qui est très à gauche.
Et première à s'être déclarée.
Oui, alors c'est celle dont on avait beaucoup parlé, qui n'a pas voulu être candidate la fois précédente, et qui est à l'origine de la commission financière pour protéger les consommateurs en matière boursière. Donc, elle connaît très bien ses dossiers, le droit de l'antitrust, les questions financières, fiscales, boursières. Mais elle a eu la mauvaise idée de rappeler qu'elle a peut-être un petit peu de sang indien dans les veines. Et donc, le président Trump l'appelle systématiquement, de façon très raciste et racialisée, Pocahontas, du nom d'une indienne hein, de l'histoire américaine. Donc elle va être sans arrêt très attaquée. Donc ceci aussi va jouer et à mon avis, le ou la candidate qui va émerger, c'est celle qui va pouvoir être la plus lisse et mieux résister aux attaques de Trump. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Amy Klobuchar, que on ne connaît pas encore, qui n'a pas beaucoup de name recognition, mais qui a été réélue plusieurs fois au Minnesota, État central, parce qu'il est tout près de l'Ohio, oui, tout près du Wisconsin.
Les États clés.
Le Midwest, voilà. Elle est très calme, elle est compétente, elle est centriste, et il est très possible qu'elle sorte petit à petit et qu'elle recueille l'adhésion. Et si vous la regardez à la télévision, lors des interviews, elle est justement likable. Elle est souriante sans en faire trop. Je pense que l'une qui va éclater très vite dans les dégâts, c'est Gillibrand, la sénatrice de New York, parce qu'elle a trop de baggage, j'en dis en anglais, trop de casseroles. C'est elle qui a fait partir un sénateur qui était beaucoup aimé sur des allégations de harcèlement sexuel dont on ne sait toujours pas si elles sont avérées, qui a tenu des propos plutôt anti-immigrants à une époque de sa campagne, etc. Donc vous voyez, tout va être mouvant parce qu'il va suffire de plusieurs tweets de Trump et il sait toujours trouver le point faible.
Oui, le bon mot pour disqualifier.
Voilà. Pour faire faire éclater certains des candidats ou certaines des candidates.
Et d'ailleurs, il a dit « j'aime bien Bernie Sanders », c'est assez étonnant ce ton. J'aime bien Bernie, mais il est fini en quelque sorte. Eh bien, on verra en tout cas si l'équation est possible, élargissement de la base et resserrement à gauche. En tout cas, merci pour ces premières explications, Anne Desine, américaniste. Merci, professeur à l'Université Paris 10. On renverra votre livre « La Cour suprême des États-Unis ». Bonne journée.